C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile. Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes ? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du jet lag, des Mastercard, de la com, de la pub, au XXIe siècle quoi. C'est pas pour dire, mais toutes ces histoires, à quoi ça sert ? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
I have a dream.
Salut, c'est Charles Cécile. Je n'ai jamais travaillé les contes, ce sont les contes qui me travaillent. C'est ainsi que notre invité du jour, Éric Desrien, parle de lui. Raconteur, philosophe, paysan, circassien, amoureux de la nature, mais surtout libre conteur, passeur de mots. Avec une vocation, partager des histoires qui viennent d'un simple constat. La culture est malade, il nous faut donc la soigner par le don, le partage, la confiance, la parole. Éric Desrien, je l'ai rencontré lors du festival Parole de Cailly, dans le petit village de Le Houlm. C'était une causerie, un partage avec le public sur des questions qui l'habitent et le parcours qui l'a poussé à devenir conteur. Plus tard, au bord de l'eau, je l'ai questionné sur sa bien-aimée Ardèche. Voici tout de suite un extrait de la causerie.
Alors du coup, autant se prévenir, hein, on est d'accord, c'est pas un spectacle, c'est pas une conférence, parce que les conférences, c'est des gens intelligents qui font ça, c'est hyper impressionnant. Non, je voulais juste partager des questions qui m'ont... qui m'habitent, qui des fois m'ont fait couture et rasoir à l'intérieur, dans cet étrange métier de raconter des histoires, ce qui est pas simple, quoi. Enfin, ce qui en fait est pas si simple. Alors, forcément, j'ai mon anti-sèche, hein, parce qu'on n'est pas à l'école. Donc voilà, c'est juste une causerie. Et pour présenter cette causerie, j'ai besoin de présenter un bout du chemin. Et le chemin, il commence avec un ado de 17 ans. Comme j'espère sont tous des ados, plein de rêves, plein d'utopie. On est arrivé sur une planète qui est tellement belle, quoi. Et là, il ouvre les yeux. Il ouvre les yeux et il voit ces villes grises. Ces espèces de clapiers dans lesquels les gens sont entassés. Il voit des gens qui ont faim, certains qui ont froid, pendant que d'autres ont le ventre plein. Il voit des gens, même ceux au ventre plein, qui rentrent ce soir après une longue journée au travail, avec l'air décomposé, comme si leur rêve avait été piétiné. Enfin, l'impression que ça insultait la vie, tout ça. C'était un tel gâchis. Un tel gâchis, ça valait même pas le coup de vieillir là-dedans, quoi. Alors, quand j'ai commencé à voler de mes propres ailes, j'ai cherché une raison pour vieillir. Une raison pour couper cette crête que j'avais sur la tête et qui me faisait dire « Vivre libre et mourir jeune », comme dans les chansons des Bérus. Donc j'ai cherché. Et je dois dire qu'en France, j'ai trouvé des gens. Quelques-uns, pas beaucoup, hein. Mais j'en ai trouvé quelques-uns. Des gens qui avaient vieilli, je me disais « Waouh, c'est possible ». Mais c'était que des individus. Et c'est quand, par une succession de hasards, vous savez ce que ça veut dire le mot hasard ? C'est un mot arabe. En fait, je trouve ça génial, c'est dans le mot hasard, il n'y a aucun hasard. Le mot hasard, en arabe, ça veut dire le chemin de la destinée. Ah, j'aime bien ça. Ah bah lui, il n'est pas d'accord. Ah, ok, ok.
Éric Desrien, bonjour.
Salut.
Bon, on se dit bonjour, on s'est déjà vu plusieurs fois sur ce festival donc, mené par Louis-Marie Zaccaron-Barthe dans la belle ville, la petite ville, mais la ville quand même de Le Houlm, hein, tout proche de Rouen. Bon, on est là dans un parc sympa avec la rivière qui coule à côté de nous et tu viens tout juste... ce matin, de faire une intervention, une causerie.
Ouais, une causerie sur la transmission. Sur l'histoire de cette causerie, c'est j'avais vraiment envie. Bon, j'ai appelé règlement de compte.
c'est pas pour rien, c'est pas innocent, on n'a pas besoin de souligner, mais vraiment envie d'insister sur cette responsabilité des raconteurs, sur comment on crée le monde avec nos paroles. Et suffisamment envie d'insister sur cette responsabilité pour essayer de mettre ça en lumière, pas sous forme d'histoire uniquement, mais en faisant appel à des savoirs durs, que ce soit de la linguistique, des sciences, l'urbanisme, les structures mythologiques des sociétés, pour partager ce sentiment de grande responsabilité. Et quand je dis pour les raconteurs, c'est des conteurs, des comédiens, des écrivains, des auteurs, mais c'est des profs, des instits, des parents, c'est nous tous, tout le temps.
C'est que toute société humaine repose sur des histoires. Ce sont des histoires qui créent toute société humaine. Exemple, chez les Grecs, il y a 3000 ans. Il y a 3000 ans, à l'époque d'Homère et d'Hésiode, Zeus est réellement au sommet de l'Olympe. Ce n'est pas une blague, c'est pour de vrai. Or, l'un des attributs de Zeus, l'un de ses noms, c'est le Xénios, le suppliant. Celui qui vient frapper à ta porte pour te demander un petit coin où dormir, un petit bout de pain, qui te demande l'hospitalité. Conclusion, pour les Grecs, il y a 3000 ans, l'hospitalité était la loi première, la loi la plus sacrée. Là où ne règne pas l'hospitalité, on le voit bien dans l'Odyssée d'Ulysse, on est hors du monde des êtres humains, on est chez les monstres, les cyclopes, les cannibales. Là où il n'y a pas d'hospitalité, il n'y a pas d'humanité. Pour les Grecs, même pas ça se réfléchissait. Mais en même temps, je comprends quoi. Quand tu sais que le mec il frappe à ta porte, ça peut être Zeus, et que s'il se met en ronde, il va t'envoyer un éclair dans la figure, 30 000 mégavolts. J'ai été regardé, 30 000 mégavolts. Ben forcément, tu ouvres la porte, tu trouves un coin où dormir, un petit bout de pain, quoi. Ça se réfléchit pas, quoi. Les Grecs ne pouvaient pas penser le nom de Zeus. Autre exemple, toujours chez les Grecs, on voit dans Persée la Gorgone Méduse. Vous voyez qui c'est la Gorgone Méduse, hein? Ses cheveux sont mi-serpents entrelacés, un seul regard te change en statue de pierre. La Gorgone, c'est la mort en face. Or, il s'avère qu'il y avait un gars, on va aller vite, hein, le jeune Persée qui était à un festin chez le roi. Et puis les Grecs, ils étaient mangeurs de pain, buveurs de vin. C'est super important pour eux parce que c'est la terre cultivée. Mais bon, quand ils font un festin, forcément, ils sont mangeurs de pain, buveurs de vin. On mange du pain comme nous aujourd'hui, puis on boit du vin, quoi. Et là, il avait bien taquiné, jeune Persée. Et à la fin du repas, ils ont procédé à une petite tradition qui se faisait, c'est un concours de cadeaux. Chacun des invités va faire un don au roi. Alors, ils font des dons les uns des autres, mais quand arrive le tour du jeune Persée, lui, il n'a pas d'argent, il n'a rien, il n'a rien. Donc, quand le roi lui dit, « Alors, et toi, Persée, que vas-tu offrir à ton roi ?» Ben, Persée, il n'a rien à offrir, par contre, il a bien taquiné. Du coup, il fait, ouais, « Moi, ce que tu veux, si tu veux, je peux même te ramener la tête de la Gorgone Méduse !» Un seul regard, elle te change en statue de pierre. Tout le monde sait que la Gorgone est parfaitement invulnérable. On ne peut pas se battre contre quelqu'un qu'on ne peut pas regarder. Mais Persée, il était bourré, il a parlé. Et il y a quelque chose d'intéressant qu'on voit sur un vase de l'époque. Les vases grecs, c'est les premières bandes dessinées, en fait. Ça raconte plein d'histoires. On voit Danaé, sa mère, à Persée. Le doigt tendu, ainsi. Et le jeune homme qui part sur les routes, les boules. Et le sous-texte, il est évident. C'est « Mon fils, si t'arrivait quoi que ce soit, je m'en remettrai jamais. Tu es ce que j'ai de plus précieux au monde. Mais mon fils, tu as parlé. Maintenant, sois un homme et que tes mots deviennent des actes. » Eh ouais, chez les Grecs, il y a 3000 ans, la parole, c'est la parole. On ne peut pas revenir sur la parole. Et du coup, on travaille les uns les autres sur une simple parole, pas besoin de signer des contrats. Vous avez réfléchi déjà à ce que c'est ces fabuleux contrats qu'on signe en Occident? Alors je vais aller vite, mais il y a deux philosophes qui ont bossé sur le sujet, sur le fait que c'est quand même des contrats de défiance. On signe un contrat parce qu'on part du principe qu'on ne peut pas avoir confiance en la personne en face, et que pour que règne la confiance, il faut qu'il y ait la peur du tribunal, la peur de la police. Chez les Grecs, non, pas besoin de tout ça. Tu achètes une maison sur une simple parole et tu travailles sur une simple parole. Et c'est des histoires, c'est ces mythes qu'ils ne peuvent pas penser, qu'ils ne remettent pas en cause. Pour eux, c'est la vérité vraie, qui donc crée toutes leurs façons de vivre.
par ailleurs, en même temps, tu es quelqu'un qui habite la Lozère, l'Ardèche, qui est aussi un peu une région un petit peu mythique. C'est presque une région de recueillement.
Ouais, ça a cette image-là. C'est vrai que l'Ardèche, c'est une longue histoire. Dans les années 60-70, ça a été le retour à la terre, ou sur certains secteurs qui étaient complètement désertés, désertifiés. Il y a eu des gens qui sont venus tenter de trouver, de réinventer d'autres chemins. Bon, alors moi, j'avoue que j'ai eu grand bonheur d'arriver bien plus tard. Donc, ce qui m'a permis, du haut de mes 20 ans à l'époque, sur mon premier passage en Ardèche, de voir aussi, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, ça te donne quoi ? Profiter d'expériences des anciens, quoi.
Et puis d'être dégagé peut-être des effets émotionnels du départ, pour regarder aussi voilà, ce qu'il en reste, quoi, de toute cette émotion, de tout cet engouement de l'époque, quoi.
C'est ça. Et c'était un petit passage d'Ardèche. Hein. J'ai passé 5 ans, en fait, à arpenter la France, l'Espagne, à chercher, à regarder, à comprendre, à voir autant en Ardèche, en Drôme, dans les Pyrénées, mille et une aventures différentes de ces gens qui ont quitté les vies, qui sont retournés vers la terre, qui ont tenté de défricher de nouveaux chemins. Donc, il y a eu des épisodes des communautés, plein de choses différentes. Et de les voir 30 ans plus tard, on voit une multitude d'histoires différentes, une multitude de déchirures, une multitude de couleurs. On voit aussi des gens qui tiennent droit, qui ont vraiment une beauté. On voit aussi beaucoup de gens qui sont énormément abîmés, énormément blessés. Et donc, on arrive à tirer des petits fils, quoi. Des fils de pensée qui peuvent s'entremêler. Comme dit Proverbe, un homme averti en vaut deux.
Blessé, déchiré, par quoi, en fait ? Alors, un décalage entre ce qu'ils avaient envie de mettre en place et...
On connaît tous l'adage qui dit que les communautés se sont toutes écroulées à cause d'histoires de fesses ou d'histoires d'argent. Déjà, alors ça, c'est indéniable. Et après, tiens. Il y a un endroit dans la Drôme qui était dans les années 70 vraiment un lieu de résistance. C'est eux qui ont remonté la commune, il n'y avait même plus de commune. Et ils étaient assez nombreux et ils roulaient avec le purin de leurs cochons. C'est-à-dire qu'ils faisaient du méthane, ils étaient complètement autonomes avec des chèvres et assez nombreux avec plein de projets différents, des gens très très actifs, des gens qui avaient l'énergie d'accueillir un Ijdin, qui étaient en lien avec des gars d'Action Directe aussi. Sauf que de nombreux de ces projets ont été montés sur des subventions agricoles. Et au bout d'un an, et demi, le gars, le caprice lui a passé, il s'en va. Et il y avait un des fondateurs de ce lieu qui s'est retrouvé un jour face à un choix. Soit il devait vendre, parce qu'en problème, c'est que les subventions agricoles, si tu ne tenais pas, je ne sais pas comment ça marche aujourd'hui, mais à l'époque, si tu ne tiens pas un certain temps, il faut les rembourser. Soit il devait vendre le lieu. Donc, accepter l'échec, la défaite, déserter. Soit il prenait toutes ses dettes à son nom. Ce bonhomme-là, quand je l'ai rencontré, moi, ça faisait 20 ans, avec son ex-femme et ses enfants, que dans des conditions catastrophiques, il vendait du fromage de chèvre juste pour rembourser les dettes des copains. Eh bien, c'était de prime abord assez dur. Le gars complètement noyé dans l'alcool, qui est devenu un gros beauf, faut dire. Pas du tout un gars sympa, mais en même temps avec toute une richesse à transmettre si on ne s'arrête pas au premier abord dans son parcours. Et il a réussi à tenir jusqu'au jour où c'est ses enfants qui ont 20 ans. Et là, je vois le tas de fumier qui était à 2 mètres de la maison, hop, se déplacer, être mis au loin, un coup de peinture, un coup de fraîcheur. Il a réussi à tenir tel Ulysse, qui jamais n'oublie le chemin du retour, qui garde le cap. Et bien, lui, il a réussi à tenir pendant 20 ans de sa vie, jusqu'au moment où ce petit lieu redevient, après un passage d'enfer, un lieu de paradis. Grande leçon. Pour moi, grande leçon. Donc ce genre de déchirure. Et puis, je crois que cet enthousiasme exubérant des années 70 de Woodstock, ça allait dans tous les sens. Et on voit que d'un côté, ben, mai 68, avec toute l'affection que j'ai pour mai 68, c'est aussi ce qui a créé la génération de la publicité, du marketing. Il y en a qui ça devient ce que ça devient, quoi. Voilà, donc d'arriver plus tard, parce que moi j'ai quitté la banlieue parisienne, c'était quoi, début des années 90, tout début des années 90. Donc il y avait déjà eu ces 20-25 ans d'expérience de ce que je vais appeler des anciens. Ça donne des outils, ouais, ça donne des armes. Mmh. Et puis de voir plein de lieux différents aussi. Mmh. Parce que tu vois plein d'évolutions. J'ai vu les mêmes types de caractères chez les gens 20 ans plus tard en Ardèche ou dans les Pyrénées. Sauf que dans les Pyrénées, ce n'est pas la même terre. C'est une terre qui est des montagnes jeunes, qui ont plus de sang. Donc c'est... Oh, tout est multiplié. En Ardèche, c'est plus doux. Voilà. Mais on a les mêmes types de chemins divers et possibles. Mmh.
Éric Desrien, un conteur, une guitare, cet amour.
Cet amour. Cet amour. Si violent. Si fragile. Si tendre. Si désespéré. Cet amour beau comme le jour et mauvais comme le temps quand le temps est mauvais. Cet amour si vrai. Cet amour si beau. Si heureux, si joyeux et si dérisoire, tremblant de peur comme un enfant dans le noir, et si sûr de lui, comme un homme tranquille au milieu de la nuit. Cet amour qui faisait peur aux autres, qui les faisait parler, qui les faisait blêmir. Cet amour guetté, parce que nous le guettions. Traqué, blessé, piétiné, achevé, nié, oublié. Parce que nous l'avons traqué, blessé, piétiné, achevé, nié, oublié. Cet amour tout entier, si vivant encore, et tout ensoleillé, c'est tien, c'est mien. Celui qui a été cette chose toujours nouvelle, et qui n'a pas changé, aussi vrai qu'une plante, aussi tremblante qu'un oiseau, aussi chaude, aussi vivant que l'été. Nous pouvons tous les deux aller et revenir. Nous pouvons oublier puis nous rendormir, nous réveiller, souffrir, vieillir, nous endormir encore, rêver à la mort. Nous éveiller, sourire et rire, et rajeunir. Notre amour reste là, têtu comme une bourrique, vivant comme le désir, cruel comme la mémoire, bête comme les regrets, tendre comme le souvenir, froid comme le marbre, beau comme le jour, fragile comme un enfant. Il nous regarde en souriant et il nous parle sans rien dire. Et moi je l'écoute en tremblant et je crie pour toi, je crie pour moi, je te supplie pour toi, pour moi et pour tous ceux qui s'aiment et qui se sont aimés. Oui, je lui crie pour toi, pour moi et pour tous les autres que je ne connais pas. Reste là, là où tu es, là où tu étais autrefois, reste là, ne bouge pas, ne t'en va pas, nous qui nous sommes aimés, nous t'avons oublié, toi, ne nous oublie pas, nous n'avions que toi sur la terre, ne nous laisse pas devenir froid. Beaucoup plus loin, toujours et n'importe où. Donne-nous signe de vie. Beaucoup plus tard, au coin d'un bois, dans la forêt de la mémoire, surgis soudain, tends-nous la main et sauve-nous.
Est-ce que tu vis dans une collectivité ?
Pas du tout. L'Ardèche, c'est l'endroit où je vis depuis 20 ans maintenant. Je me suis dit dans un coin de ma tête que ce serait la rencontre entre Jean Giono, Pierre-Joseph Proudhon et Cortomaites. Donc, c'est pas une collectivité, en même temps, c'est lieu de collectif. Et c'est là que c'est... pour raconter un petit peu, après des années nomades, je deviens papa, je me sédentarise, ce qui bouscule toute sa vie, tout le métier, tout ça, dans la montagne. Et un jour, par le jeu du hasard, vraiment par le jeu du hasard, j'ai rien fait pour le chercher, je rencontre un petit coin de forêt. Un coin de forêt dans un état catastrophique. C'était 2 ans après la tempête de 99. Donc je rencontre un petit vallon forestier où c'est une forêt d'arbres morts couchés les uns sur les autres. Une forêt de pins maritimes couchés les uns sur les autres. Carnage. Et là, à l'époque, j'y ai pas pensé. Ça touchait des vieilles visions comme chez les Sioux. C'est des images que j'avais en tête depuis mes 17 ans d'un vallon isolé où on pourrait réinventer une autre vie. Ça, à l'époque, je n'avais pas mis le doigt dessus, mais en tout cas, je me suis dit, avec mon métier que je fais, de conteur, d'enseignant des arts du cirque, de semeur de vent, eh ben, prendre soin d'une forêt, ça, ça a du sens. Donc, puis, 2 jours après, je repasse, et là, je découvre un petit lieu très précieux, une petite grotte, et c'est à cet endroit, à cet instant, que dans mon cœur, j'ai prêté un serment. J'ai prêté serment à cette forêt que je prendrais vraiment soin d'elle. Alors ça a été début des aventures où on arrive, il y avait un petit mazet de 30 mètres carrés.
Un mazet, c'est quoi ?
Une toute petite maisonnette. D'accord. 30 mètres carrés, pas d'électricité évidemment, hein, rien qui vient de la ville. C'est peut-être ça aussi qui faisait que je m'y sentais bien. L'eau de la source. Donc ouais. Je me pointe avec mes enfants, 2 à l'époque. Il fait nuit à l'intérieur en hiver à 4 heures, parce que des toutes petites fenêtres. Et forcément, tu arrives, la peur du romanichet, la peur du voyageur. Il y a eu 3 années un peu tendues. Forcément, il a fallu être malin pour ne pas se faire chasser, juste. Et puis, petit à petit, ben, tu entretiens les relations. Les anciens voient le travail fait sur la forêt. Puis, tu travailles avec les écoles. On fait connaissance, on crée de la relation. Et à partir de ce moment-là, ben, ça s'est assoupli. Et c'est tout de suite, il y a eu cette histoire d'hospitalité. Je raconte l'Odyssée d'Ulysse, quoi, ce champ de l'hospitalité. Et pour moi, il y a un truc qui est vraiment important, de pensée, parole, action. On ne peut pas parler ce qu'on n'agit pas. Pour moi, c'est fondamental.
C'est pas pour dire. Encore un extrait de la causerie d'Éric Desrien au festival Parole de Cailly.
Une fois, j'étais en train d'acheter une petite parcelle de terre
pour les joujoux qu'on fait, qui sont, pour ce qu'on fait, libérer de la terre, quoi, voilà. Parce qu'aujourd'hui, il faut acheter le bout de terre, hein, parce qu'on a un grand mythe encore en Occident, c'est la propriété privée. Ça a pris ça. Mais bon. Et le notaire, il me regarde, il me fait « Mais compteur, vous arrivez à gagner votre vie en étant compteur ?» Il a regardé, je fais « Mais monsieur, j'ai pas besoin de la gagner, ma vie. Ma mère, elle me l'a donnée gratos. » Gagner sa vie. Vous imaginez l'impact? Chaque enfant à qui on dit qu'il faudra bien qu'il pense à gagner sa vie. Mais le sous-entendu, ça veut dire que si je ne deviens pas salarié, si je ne me mets pas à bosser pour un patron, je meurs, quoi. Combien d'enseignants, combien de parents disent à leur môme « Eh, il faudra que tu penses à vivre ta vie. » Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Par contre, gagner sa vie. Tous ces petits mensonges. Est-ce que vous avez des idées, vous, d'autres petits mensonges comme ça?
Et il y a eu un moment où j'ai fait la maison. Pour ça, j'ai retapé un petit chalet. Un petit chalet qui était moitié en ruine. Le propriétaire, il me l'a prêté à la parole, à vie. Et la parole, c'est possible. Du coup, j'ai retapé ce petit chalet pour pouvoir m'abriter avec mes filles le temps de fabriquer la maison. Et depuis qu'on est dans la maison, j'ai posé une règle du jeu par rapport à ce chalet, c'est que c'est un lieu d'accueil, libre et gratuit. Donc la seule condition exigée pour pouvoir s'y poser entre deux jours et une semaine, c'est de passer un coup de téléphone pour prévenir. Et puis après, ça se gère tout seul, il y a une tirelire à l'intérieur. Et ça se fait tout seul. Et du coup, le chalet a commencé à accueillir des gens, que ce soit des gens qui venaient pour se ressourcer, prendre un coup d'air, que ce soit des fois des jeunes qu'on trouve en train de dormir derrière des poubelles du supermarché, et que du coup, on accueille un peu plus d'une semaine, le temps qu'ils reprennent des forces, qu'ils reprennent de la confiance, qu'ils se resolidifient. Et dans cette vie-là qui va, qui vient, qu'on ne contrôle pas, un jour, il y a le fils d'un copain qui connaissait cette forêt depuis ses 5 ans, depuis tout petit. Lui, il est chez lui, quoi. Il vit en Auvergne. Tous les printemps, à un moment, il débarquait parce qu'ils n'en pouvaient plus de la neige, alors il venait au soleil. Et un jour, du haut de ses 18-19 ans, il me dit « Ouais, avec un copain, on veut apprendre à jongler, on vient chez toi, on te donne un coup de main, en échange, tu nous apprends. » Et ils viennent, une fois. Et puis, ils reviennent, en amenant des amis à eux. Et puis, il y a une équipe de Parisiens qui vient comme ça aussi, une fois, suite à une rencontre en autostop. Et puis, qui reviennent, qui amènent des amis à eux. Et petit à petit, il y a eu ce qu'on appelle des stages trocs, parce que tous ces gamins, il n'y en a pas un qui a d'argent, évidemment. Et donc, ce principe, c'est, voilà, ils travaillent une journée sur la forêt, en échange, ils ont une journée de stage, de formation, au mouvement, au corps, au cirque et à la scène. À la présence scénique. Que ça, en pédagogie, c'est vraiment ce qui m'intéresse. C'est sur scène, on a besoin d'avoir de la présence, on a besoin d'avoir du charisme, mais c'est pas un don des cieux, ça se travaille. Et il y a même des trucs très simples pour le bosser, quoi, quand on les connaît. Et du coup, il y a ces stages échanges, et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a nombreux parmi ces jeunes qui, du coup, viennent avant tout pour apprendre à jongler, pour apprendre la scène, mais qui après reviennent pour la forêt. Le côté stage, ça a été un passage, une nourriture d'un instant. Certains conservent, d'autres ne se conservent pas. Chacun a son chemin, mais et ils reviennent pour la forêt.
De la ville lumière, où il fait toujours noir, où il n'y a jamais d'air, et l'hiver comme l'été, là, c'est toujours l'hiver. Elle était dans l'escalier, lui à côté d'elle, elle à côté de lui, c'était la nuit. Ça sentait le soufre, car on avait tué des punaises dans l'après-midi. Et elle lui disait, ici il fait noir, on n'a pas d'air, l'hiver. l'hiver comme l'été, là, c'est toujours l'hiver. Le soleil du bon Dieu ne brille pas de notre côté. Il a bien trop à faire dans les riches quartiers. Serre-moi dans tes bras. Embrasse-moi. De tout, de chaud, de froid, on gèle, on étouffe, on n'a pas d'air. Si tu cessais de m'embrasser, il me semble que je mourrais étouffé. T'as 15 ans et j'en ai 15, à nous deux on a 30. À 30 ans on n'est plus des enfants, on a bien l'âge de travailler, on a bien l'âge de s'embrasser. Plus tard, il sera trop tard. Notre vie, c'est maintenant. Embrasse-moi. Plus tard, il sera trop tard. Notre vie, c'est maintenant. Embrasse-moi.
Une phrase qui m'agace depuis 2000 ans. Aime ton prochain comme toi-même. C'est une ineptie. Non, ce qu'il faut dire, c'est « aime ton prochain, c'est toi-même ». On est tous une seule et même chose. Ça, c'est ce que nous dit la science aujourd'hui. Une autre façon de se raconter le monde. La permaculture, c'est ça aussi. C'est quoi la permaculture? Pour dire en deux mots, c'est « t'arrives avec ta brouette dans ton jardin, tu poses la brouette, et en fait, tu t'assois dans la brouette et tu regardes le jardin. Hein ? Tu prends le temps de faire connaissance. » L'idée de permaculture, c'est d'arrêter d'exploiter la terre pour entrer en relation. Et souvenir qu'on n'est pas supérieur à la terre elle-même, on est en relation et ensemble, on va cheminer. Je vous promets que ça marche. Je vous promets que ça marche. Il y a un coin de désert qui aujourd'hui, en 20 ans, est devenu une forêt. Donc, dans la permaculture, on trouve aussi dans la pédagogie. Il y a un gars, donc Jean-Pierre Vernant, celui qui étudiait les mythes grecs, qui explique ce qu'il faisait face à ses élèves, justement, pour que ça fonctionne bien. Alors on pourrait parler du maître ignorant de Rancière, il y a plein de points communs. Mais Vernant, au moins, il y a un petit principe là, que j'adore, c'est quand il dit que lorsque j'étais face à ma classe, je m'arrangeais pour qu'il n'y ait aucun détail vestimentaire ou de vocabulaire qui me confère le moindre statut. Que la seule chose qui nous unisse soit cette philia, cette amitié au sens grec du terme, dans l'aventure d'ensemble apprendre. Et c'est ça qui donnait ses résultats, sachant que Jean-Pierre Vernant, en termes d'études des mythes grecs, il a ensemencé vraiment, de façon hallucinante, aujourd'hui encore, hein, son impact est énorme. Aucun statut de supérieur, il est avec ses élèves, et ensemble ils avancent. C'est dans le domaine artistique ce que Federico Garcia Lorca exprime dans son livre « Jeu et théorie du duende ». Quand il met en opposition trois formes d'inspiration. Et ceci avec quelque chose de très logique. Hein. Pour en revenir à ce métier de raconteur d'histoire, toutes ces questions-là, en fait, techniquement, pour moi, elles sont techniquement importantes. Un exemple, c'est quand je me suis retrouvé à bosser sur le mythe de Merlin. Ça n'a pas été simple. Parce que, autant pour les mythes grecs, y a un Jean-Pierre Vernant, qui je donne toute ma confiance, qui a passé sa vie à les étudier, et puis, personnellement, je me sens une communauté de pensée. Autant pour Merlin, voilà. Aucun universitaire de confiance. On a soit des médiévistes qui sont bloqués sur la période post-13e siècle, Amour Courtois et compagnie, mais que tout ce qui est structure mythologique des sociétés, ça repasse loin au-dessus. Soit on a des sceptisants qui ont tellement la manie de lever leur petit drapeau sceptique toutes ces deux pages, qu'en termes de confiance, moyen. Et pourtant, il y a quelque chose d'important, quoi. Il y a plein de versions. Alors, j'ai pris le temps, j'ai passé du temps à trouver tout ce qui pouvait se trouver en plein de versions. Et juste, on va prendre un exemple, c'est la naissance de Merlin. Vous souvenez-vous de qui Merlin est l'enfant ? Le diable. Ouais. Le souvenir, dans 90% des cas en France, c'est Merlin est fils du diable. Alors d'abord, c'est pas vrai, c'est fils d'un démon. Démon incube. Et voilà, là on va pouvoir se retrouver à transmettre deux visions du monde. Merlin, fils d'un démon incube et de jeune jouvencelle. En fait, c'est une jeune fille, chaste et pure, qui passe son temps avec monsieur le curé en prière, mais sans les forces démoniaques. Alors le bon curé lui explique qu'il faut qu'à chaque fois qu'elle s'endorme, qu'elle laisse une petite chandelle allumée. La clarté repoussera les forces d'obscurité. Mais un soir, elle s'endort très en colère contre sa sœur, parce que sa sœur, elle n'avait pas le même caractère, elle passait ses soirées avec moult beau chevalier taquin. Elle est en colère, elle oublie la chandelle, et du coup, un démon incube en profite pour venir la visiter. Merlin naîtra de cet esprit diabolique, et c'est ainsi qu'il aura connaissance des choses de l'avenir. Mais Dieu, reconnaissant la chasteté et la pureté de la mère, lui donnera aussi connaissance des choses du passé. Ainsi, Merlin marchera sur ce fil tendu entre le bien et le mal, entre les hier et demain. Ça, c'est post-XIIIe siècle. OK ? Au XIIIe siècle, en France, arrivent deux choses qui étant de l'hégémonie. La pensée aristotélicienne, la pyramide, on découpe le monde entre supérieur et inférieur, on ne va pas s'en dépêtrer, et le droit romain. Brusquement, la femme perd tous ses droits. La femme qui, plus tôt dans le Moyen-Âge, pouvait diriger une cité entière, être maître artisan, qui parfois combattait parmi les troupes de mercenaires, du jour au lendemain perd tous ses droits. Il y a beaucoup d'historiens qui datent la naissance, la prénaissance du capitalisme au XIIIe siècle, de par la perte des droits de la femme, qui va juste devenir l'esclave destiné à assurer la création de main-d'œuvre, et l'organisation du travail dans les monastères avec le découpage du temps. Après, il y a une autre version de Merlin qui est beaucoup plus ancienne. C'est Godefroy de Monmouth qui, au XIe siècle, nous la transmet. Où c'est une jeune princesse bretonne qui, en se promenant dans la forêt, voit un arbre magnifique. Elle décide de s'y endormir. Et dans ses rêves, vient un beau jeune homme. Pas en marchant, mais en flottant délicatement dans les airs. Qui lui caresse longuement les cheveux et qui lui, on va pas faire de dessin. Quand elle se réveille, elle se rend compte que dans son ventre, une graine a été posée. Et ainsi, Merlin va naître d'un esprit fée. Au XIe siècle, Godefroy de Monmouth collecte les mémoires du mythe celtique. Les peuples celtes, c'était des peuples de la terre vivante. La magie, il n'y a pas de problème. La magie, il n'y a pas de problème. La femme, c'était des sociétés matrilinéaires. L'époque du haut Moyen-Âge où une femme pouvait combattre l'épée à la main. On est dans vraiment une autre forme de pensée. Et voilà, comme un ego, quand je raconte Merlin, je me retrouve là face à un choix. Tant que faire se peut, s'il est conscient, c'est pas plus mal. Parce que soit innocemment, par cette petite histoire rigolote, je vais transmettre un monde de la terre vivante, un monde de l'égalité entre tous. En plus, ces vieux mythes celtiques, vous souvenez des chevaliers de la table ronde ? C'est pas pour rien qu'elle est ronde, la table. C'est pour marquer l'égalité entre chacun. C'est un souvenir de l'organisation politique des Celtes, qui, on a très peu de traces, mais apparemment était très proche de l'organisation politique des Sioux. Chez les Sioux, Il y a un chef. Mais en fait, ce chef, c'est juste celui qu'on considère comme étant plus malin, donc on écoute ses conseils. Quand le chef dit « on va au nord », si j'ai envie d'aller au sud, je vais au sud, et puis tous ceux qui veulent me suivre. Il n'y a aucun pouvoir de coercition. Donc soit je raconte ce monde-là, et Merlin est fils d'un esprit fée, soit je raconte Merlin étant fils d'un démon incube, et c'est le monde de l'Inquisition, le monde de la chasse aux sorcières, le monde de la femme qui a perdu tous ses droits, le monde du capitalisme que je raconte. Comme quoi, des fois, raconter une histoire, c'est peut-être pas si simple, quoi. Faut peut-être faire attention, parce qu'on dessine le monde avec nos mots.
Éric, l'Ardèche, c'est aussi une histoire de pommiers, de jus et d'oliviers, non ?
C'est que quand je suis arrivé dans ce coin de forêt, je voyais passer un petit vieux, 75 ans, qui vente, qui pleuve, qui neige. Il prenait soin de son verger. C'était le dernier ancien qui prenait soin de son petit coin de verger dans cet espace-là. Alors forcément, naturellement, il y a des coups de main qui commencent à se donner. On se rencontre. Et un jour, je vois la larme à l'œil. La larme à l'œil parce qu'il me dit « Après moi, ce sera la ronce. » Et toi, t'es en face, t'es plein de vie, t'es plein de pêche. Alors forcément, tu réponds « Mais non, si je suis là, après toi, ce sera pas la ronce. » Alors, 20 ans plus tard, il a 95 ans. Et ça représente quand même un sacré paquet de boulot parce que ça veut dire que ses vendanges sont faites. Aujourd'hui, on a même arrêté la cave coopérative parce que c'était trop dur. Les petits producteurs, ils en ont rien à faire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on transforme tout en jus de raisin. Et comme ça, après, on vend une partie du jus de raisin. Ça lui permet de lui acheter son pinard. Et le reste, on le partage. Pour chaque journée de travail dans l'année, ça fait autant de jus qui est partagé à l'équité entre tous. Alors du coup, vu qu'on s'est mis à faire du jus de raisin, il y a plein de pommiers qui ressortent. Certains pommiers qu'on a trouvés dans la ronce, que j'ai sortis de la ronce. D'autres qui sont réensemencés tout seuls. Donc, des vieux pommiers, des pommiers sauvages, eh ben, on a lancé le jus de pomme. Sur le même principe, hein, il y a tant de journées de travail par les uns, par les autres, et on partage en équité du nombre de jours travaillés.
On dirait qu'il y a combien de pommiers à vue de nez comme ça ?
Alors, de pommiers, wow, ça va être super dur à dire. Non, je vais te répondre autrement. Il y a une bonne année, il y a 3 ans, j'ai fait 800 litres. Cette année, là, l'année dernière, on a dû faire 450 litres, parce que c'est la nature, hein, ça va, oui, ça vient. Ça.
Je vois bien les
et petit à petit, il y en a de plus en plus. Le tout, c'est de faire attention, d'être vigilant. C'est quand on passe à des broussailleuses, c'est faire « Ah, stop, il y a un bébé !» Que ce soit un bébé pommier, un bébé chêne, on fait attention, c'est une pépinière, quoi. La haute garderie des arbres libres. Et du coup, dans les jeunes qui étaient sur les stages troc, ben forcément, ils se retrouvaient à participer aux vendanges, à participer au jus de pomme. Puis mon petit vieux, il a aussi ses oliviers. Alors là, sur les oliviers, la règle du jeu, elle est différente. C'est, il n'y en a pas beaucoup qui sont encore entretenus. Donc c'est les olives solidaires. Il a 95 ans, il a pris soin de ses arbres toute sa vie. Il doit avoir son huile d'olive pour l'année. J'ai vu des jeunes venir de Rouen jusqu'en Ardèche, juste pour ramasser les olives du petit vieux, en sachant qu'on n'aurait pas une bouteille pour nous, que c'est pour le petit vieux, quoi. C'est, et ils ont ce respect des anciens. Ça, ça me rend heureux. À l'heure où le gouvernement détruit le système de retraite solidaire, eh ben on se réapproprie par nos propres moyens. Et c'est là que, avec tous ces stages qui se faisaient, avec les gamins qui se parlent aux uns aux autres, moi j'ai rien cherché de tout ça. Ça se fait tout seul, c'est la vie qui vibre. Puis elle va bien où elle veut et on accompagne ou on n'accompagne pas, quoi. C'est pas nous qui créons le courant, on choisit d'être avec. Et du coup, ça a petit à petit impacté de plus en plus de personnes, de plus en plus de jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, ça doit être 150, 200 jeunes pour qu'ils aient un lieu de ressources, de passage semi-nomade. Vraiment, semi-nomade, ça peut pas être un lieu de vie sédentaire. On doit faire attention que c'est un espace fragile aussi. Il ne doit pas y avoir trop forte implication humaine. Et c'est là qu'il y a plein de choses qui se créent. Par exemple, ce jour où j'ai un des gars, 25 ans, il avait, et qui me dit, moi, mon rêve, ce serait de faire mon huile d'olive. Alors, comme c'est un Auvergnat et que je suis taquin, ma première réponse a été, déménage. Hein. Mais là, je me suis souvenu de choses que mon petit vieux, justement, m'avait proposé, et à qui j'avais répondu, j'ai que deux bras. Je suis retourné voir mon petit vieux. Et du coup, le lendemain, le gamin, je pouvais lui dire, eh ben, mon gars, tu as 2 hectares d'oliveraies abandonnées depuis le gel de 1956. Qu'est-ce que tu fais? Et c'est comme ça que l'idée d'oliveraie collective est née.
Dicker qui vous est déjà en Marte ou Eldorado abra a janela e veja quase mudo abraço de anos luz que nenhum sol aquece e o oco escuro esquece.
Du social et le monde de la culture. On y est en plein dedans, entre autres, par l'attribution des subventions par projet. En fait, il y a eu une époque où tu avais 2 centres sociaux ou 2 théâtres et ils touchaient de l'argent pour travailler. Puis ils bossent ensemble, les gars. Puis un jour, ils ont eu là-haut, à Paris, cette magnifique idée de l'attribution des subventions par projet. Du coup, c'est le centre social qui aura le plus beau projet qui va avoir le plus de sous, ou le théâtre qui a le plus beau projet, qui aura le plus de sous. Déjà, ça, c'est super intelligent de leur part, parce qu'on installe au cœur de ces gens, qui sont, en général sont quand même des gens de gauche, l'esprit de compétition, de fer de lance du capitalisme. Yes. Ah, ça y est, j'ai lâché gros mot. Excusez-moi. Et en plus, on sait comment ça se passe. On sait que si on veut avoir notre subvention, va falloir dire les choses dans la façon que, dans les bureaux, ils veulent l'entendre. Hein. Si forcément je commence en tant qu'animateur d'un centre social à dire « Ouais, nous on a besoin d'argent parce que y a les gosses des exploités, là, faut qu'ils aillent prendre l'air dans la nature. » Peu de chance que ça marche, quoi. Par contre, nous développons un projet d'immersion en milieu rural pour la jeunesse défavorisée, ah, ça marche mieux, quoi. Donc, on passe d'un exploité à défavorisé, hein, la même personne. Dans un cas, c'est quelqu'un qui est exploité, donc il y a un exploiteur. On va monter des barricades, faire des manifs, quoi, se mettre en grève. Dans l'autre cas, il n'a pas de bol. Hein. On va pas lutter contre ce manque de bol, on est d'accord. Et ainsi de suite, par ce biais-là, en 30 ans, le champ sémantique français a complètement changé. On nous a fermé des portes à notre pensée. Alors j'ai l'impression que c'est en train de plus ou moins revenir, tout doucement, qu'il y a des gens qui ont bien bossé, comme Franck Lepage, grand merci, qui ont mis vraiment tout ça en lumière. Donc petit à petit, peut-être qu'on va réussir à se réapproprier des mots. Le vrai combat, il est dans les mots, quoi. Et un truc, c'est dans notre cas, la plupart des gens dans cette pièce, dans le monde de la culture, c'est qui offre ces subventions ? C'est le ministère de la Culture. Qu'est-ce que c'est qu'un ministère de la Culture ? Ça, je trouve ça super flippant aussi. Un ministère des Transports, C'est un ministère qui est là pour gérer les transports. D'accord ? Bah ouais, techniquement. Donc un ministère de la culture, c'est un ministère qui est là pour gérer la culture. 1984. Est-ce que vous savez quels étaient les trois seuls pays au monde à s'être doté d'un ministère de la culture avant la France de 1948? Oui, toi, je sais que tu sais. Juste devinette. Chut, garde, on va voir si ça devine. Devinette, trois pays au monde ont eu un ministère de la culture avant la France de 48.
La Chine?
Non.
L'URSS?
Pas loin. L'URSS de Staline. Hein? L'Italie de Mussolini et l'Allemagne nazie. Les trois seuls pays au monde à avoir eu un ministère de la culture avant la France. Sachant qu'en France, c'est né en Algérie, les résistants avaient l'intention de créer un ministère de l'éducation populaire, de l'éducation politique des jeunes adultes. Bon, ça s'est passé vite à la trappe et Malraux nous a pondu son ministère de la culture. C'est quand même sympathique. Enfin, tout ça pour dire, avec tous ces petits éléments-là, que il m'est apparu de plus en plus évident que les Dakota, les Sioux Dakota avaient raison. Quand ils disent que les scientifiques nous disent qu'on est constitué d'atomes, mais nous, les Sioux, savons qu'avant tout, nous sommes constitués d'histoire. Ça nous fabrique, quoi. Et ça fabrique le monde. Alors, une fois ce constat posé, je reviens à mes 17 ans, à ces utopies, ce rêve d'un monde où on pourrait tous être heureux, pas forcément, mais au moins avoir un toit, à manger, toit, tous ces rêves utopiques. Et du coup, j'ai commencé à me demander, mais c'est où la source du poison? Chercher. J'ai voulu chercher cette source du poison et il s'est passé deux choses à la fois. C'est qu'en même temps, ça m'a permis de comprendre une logique inhérente à plein d'affections littéraires que j'avais. C'est, j'étais amoureux autant de Prévert, de Giono, des cultures Sioux, des cultures Sahraoui, de plein de choses comme ça, complètement dévariées, qui allaient dans tous les sens. Et en cherchant cette source au poison, ben, ça m'a fait trouver une logique cachée. Alors, pourquoi la source? Il y a une image, si on est pile sur la ligne de partage des eaux, on est d'accord, sinon mon image, elle ne marche pas du tout. Il y a une source. Eh bien, il suffit d'un petit caillou, d'une pierre. C'est tout petit, une source, hein. C'est un petit caillou. Ça ne se voit pas bien hein, dans la montagne. Mais ce petit caillou, il va faire que ton ruisseau, il va couler d'un côté ou de l'autre. Un tout petit caillou qui fera que ta source, ben, elle deviendra fleuve qui ira dans la Méditerranée ou elle deviendra fleuve qui ira dans l'océan Atlantique. Un tout petit caillou, ça peut avoir de grandes répercussions. Et je crois avoir trouvé une source, en tout cas, il y a quelque chose qui m'a tapé dans la tête, c'est la transcendance. Alors, vous savez ce que c'est, la transcendance? C'est un nom assez réputé, assez connu. Hein, on entend plein de gens qui reviennent de boîtes de nuit, qui font « Waouh, j'ai dansé toute la nuit, la musique, elle m'a complètement transcendé !» Non, là, il ne sait pas ce qu'il veut dire. Hein. Il ne sait pas ce qu'il dit. La transcendance, c'est ce qui est apparu avec Platon et Aristote. Platon, le mythe de la caverne, tout le monde connaît. C'est « Nous ne sommes pas vrais, mesdames et messieurs, vous n'êtes pas réels, moi non plus. Nous ne sommes que les reflets contre le mur de la caverne d'une vérité supérieure. » Et là, le grand mot est lâché. D'une vérité supérieure. Aristote range le monde en pyramide, entre supérieurs et inférieurs. L'homme supérieur à l'animal, supérieur au végétal, supérieur au minéral, le riche supérieur au pauvre, l'homme supérieur à la femme, la transcendance d'Aristote. Et là, la source, elle a commencé à couler. Elle a commencé à couler, à produire plein de choses, avec plein de choses intéressantes aussi, mais un Descartes, entre autres, qui dit que la création est notre jouet à nous, hommes supérieurs. Sans ce genre d'idée, il ne pourrait pas y avoir de centrale nucléaire, d'OGM, de Monsanto. Ce serait juste pas possible. On ne pourrait pas le penser. On a un Pascal, le grand Pascal, qui, dans sa lettre à la reine de Suède, dit qu'il est normal et sain que des esprits supérieurs exercent sur des esprits qui leur sont inférieurs le même pouvoir que des rois sur leurs sujets. Pascal, c'est du lourd. Hein. Et tout ça, ça a inondé toutes nos cultures. Moi, j'ai grandi dans une culture où on croit que le cerveau est supérieur au corps. Alors qu'aujourd'hui, les scientifiques nous disent bien que le deuxième endroit où il y a le plus de neurones, c'est les entrailles. Puis en plus, un neurone tout seul, ça ne marche pas. Hein. Ça a besoin de causer un neurone. Ça a besoin de synapses pour causer des neurones. Il y a plus de synapses dans les entrailles que dans le cerveau. Des neurones, on en a jusque dans notre os. Et pourtant, j'ai grandi avec ce truc de cerveau supérieur au corps. Quoi. Puis en plus, le corps, c'est mal quand même. Hein. C'est pour ça qu'un vieil indien disait à un homme blanc, « Je comprends pas, vous, les blancs. Vous pensez avec votre tête. » « Bah oui, parce que vous pensez avec quoi, vous, les indiens ?»« Avec le cœur. » Et ça influe chaque petit micro-instant de nos sociétés. On grandit de sang depuis qu'on est tout petit. La notation à l'école. La seule impact de la notation en milieu scolaire est de hiérarchiser les enfants, de leur apprendre qu'il y aura des gagnants et des perdants, des supérieurs et des inférieurs. C'est la seule impact pédagogique. Et le pire, c'est que ça, on le sait depuis la création de ce système scolaire. Lorsqu'en 1793 a été choisie l'école de Condorcet, qui s'inspirait de l'école des Jésuites, l'école quand même des aristocrates, hein, de la contre-révolution, il y a eu d'autres propositions d'école où il n'y avait aucune notation. Des trucs qui ressemblaient plus à ce que Freinet mettra sur pied plus tard, des écoles de l'entraide. Au moment où ces sept types d'écoles, avec la notation individualisée qui a été choisie, il a été dit à Condorcet, « Vous rendez-vous compte que vous allez créer une société où le pouvoir reposera sur le savoir ?» Condorcet répond, « Oui, bien sûr, mais ce n'est pas grave si cette élite se met au service de la société. » Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y, et nous nous resterons sur la terre, qui est quelquefois si jolie, avec ses mystères de New York et ses mystères de Paris, qui valent bien celui de la Trinité. Avec son petit canal sur l'Ourcq, sa grande muraille de Chine, sa rivière de Morlaix, ses bêtises de Cambrai, avec son océan Pacifique et ses deux bassins aux Tuileries, avec ses bons enfants et ses mauvais sujets, avec toutes ces merveilles du monde qui sont là, simplement sur la terre et offertes à tout le monde, éparpillées, émerveillées elles-mêmes d'être de telles merveilles et qui n'osent se l'avouer comme une jolie fille nue qui n'ose se montrer, avec les épouvantables malheurs du monde qui sont légions, avec ses légionnaires, avec ses tortionnaires, avec les maîtres de ce monde, les maîtres avec leurs prêtres, leurs traîtres et leurs reîtres, avec les saisons, avec les années, avec les jolies filles, puis avec les vieux cons, avec la paille de la misère pourrissant dans l'assiette des canons. C'est ainsi que je vais conclure tout ça avec juste une phrase. La phrase de Noam Chomsky, que je trouve parfaitement adaptée au monde de la culture en France aujourd'hui. Quand Noam Chomsky nous dit que le capitalisme a réussi ce tour de force à faire en sorte que ce sont ceux-là même qui croient de combattre qui en sont ses plus efficaces soutiens. Je nous souhaite à tous et à moi le premier de faire vachement attention.
Petite question comme ça, est-ce que des gens comme toi, ou des gens comme vous, puisque vous êtes peut-être plusieurs, ou je ne sais pas, enfin, des gens comme toi, tu es en réseau avec d'autres gens qui mènent des expériences, qui mènent, pas des expériences d'ailleurs, qui mènent des vies un peu du même genre ailleurs, tu vois?
Alors, avec des gens qui cherchent à défricher des chemins, oui. Ne serait-ce que parce qu'il y a entre autres des vieux amis. Et c'est pas forcément dans des couleurs visibles. Alors certains, c'est en s'installant en haut des montagnes, en faisant une maison en pierre qu'avec leurs petites mains. D'autres, c'est en prenant des chemins qui sont apparemment beaucoup plus classiques, par exemple dans la fonction publique, etc. Mais vraiment dans ce désir d'intelligemment prendre soin du monde et qu'ils finissent par exemple, travailler dans des scopes qui permettent à plein de gens de travailler librement tout en ayant un certain confort. Donc plein de formes de résistance comme ça. Après, on réseau aussi avec plein de gens rencontrés sur le chemin qui sont dans une dynamique d'autonomie, que ce soit en étant nomades, beaucoup de nomades, plein de couleurs différentes. Et plus ça va, plus on est aussi en réseau avec des lieux sédentaires qui se cherchent dans des couleurs très différentes les uns des autres. Et c'est ça que je trouve sympa. C'est justement la multiplicité des couleurs qui fait la beauté du tapis. Pour reprendre Amadou Ampateba.
Bien. Eric, merci de cet entretien in the verdure.
Merci à toi.
Bonne suite de festival.
Je te remercie. À toi aussi.
Et c'est comme ça que cette heure passée avec le conteur, jongleur, philosophe, paysan Eric Derrien se termine. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site www.c'estpaspourdire.fr et nous envoyer des commentaires ou suggestions sur la page Facebook de l'émission. En attendant d'autres histoires, je vous dis ciao.